Saint-Paragra. Et il donne l'explication de son affirmation dans 5 paragraphes qui sont l'explication des premières affirmations. Alors, si nous voulons avoir l'idée dans son ensemble, il nous faut lire le tout. Autrement, nous serons obligés à chaque fois de répéter la même explication dans un domaine différent de l'être. Ces 5 paragraphes se réfèrent à 5 modes d'être ou 5 états d'être, et c'est le même phénomène qui se reproduit dans ces différents domaines. Seulement, chacun concerne une partie de l'être . C'est-à-dire que si nous prenons l'homme un par un, ça veut dire que nous devons entrer dans des détails considérables. Et serez-vous capable de me suivre dans ces détails? Je me le demande. On va faire comme ça. Je vais vous en lire un. Et puis, on va essayer. Et si le thème est suffisant pour la leçon, on continuera. Sinon, je vous en lirai. Je vous lirai les 5. Parce que quand j'aurai lu les 5 premiers, je pourrai vous expliquer le sens de ces 5 ensembles, que je ne puis faire qu'après les avoir lus tous les 5. Nous prenons le premier en tout cas, n'est-ce pas ? Qui est comme ceci. Le chapitre s'appelle le but. Quand nous avons dépassé les savoirs, alors nous avons la connaissance. La raison fut une aide, la raison est l'entrave. Ici, il est question de l'être mental dans l'homme. C'est-à-dire ce qui concerne les activités mentales. Et il oppose les savoirs à la connaissance. Au fond, c'est moi qui devrais vous demander si vous savez ce qu'il veut dire par les savoirs. Et pourquoi il l'oppose à la connaissance? Parce que si je vous explique tout ça, sans que vous ayez fait d'efforts, vous servir le repas tout cuit sans que vous soyez donné la peine de le cuire. Et le résultat sera que dans plus ou moins longtemps, dans une demi-heure ou dans un jour, vous aurez totalement oublié tout ce que je vous aurais dit. Et que ça ne vous aura fait aucun effet. Hein? Oh. Je voudrais que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il comprend par les savoirs. Dis-moi ça.
Moi, j'ai compris comme là. Connaissance qu'on acquiert par l'étude extérieure.
C'est évidemment ça. C'est tout ce que l'on peut apprendre par l'étude des phénomènes extérieurs et dans tous les champs d'activité mentale. Tout ce que l'on peut apprendre par l'observation matérielle et par les études techniques dans les différents champs d'activité mentale, scientifique, artistique, philosophique, littéraire, au fond, tout ce que la mentalité humaine a produit par son étude extérieure de la vie et des choses. En effet, tout ce que l'on peut trouver dans les livres, tout ce que l'on peut trouver par l'étude directe de la nature et tout ce que l'on peut trouver par le raisonnement, la déduction, l'analyse et toutes les activités spéculatives du mental humain. Et alors la deuxième phrase nous fait voir qui met la raison au sommet de la mentalité humaine et il nous dit que dans le développement du mental, la raison est le guide le plus sûr, le maître, pour ainsi dire, qui vous empêche de dévier, de vous tromper de chemin, de vous égarer et de perdre le bon sens. Il met la raison comme l'arbitre de l'activité mentale humaine qui guide et qui contrôle. Et tant que vous avez affaire aux activités mentales, même les plus spéculatives, c'est la raison qui doit vous guider et vous empêcher de dévier du droit chemin pour entrer dans des imaginations plus ou moins fantastiques et malsaines. Mais si vous voulez atteindre à la connaissance véritable, c'est-à-dire à la connaissance spirituelle que l'on ne peut obtenir que par identification, alors, il faut aller au-delà de cette raison et entrer dans un domaine supérieur au mental où on est en rapport direct avec la lumière ou du surmental ou supramental. Et il dit ceci, que tant que vous êtes dans la région mentale, la raison vous aide, c'est votre aide, c'est votre guide. Mais si vous voulez avoir la connaissance véritable par identité, la raison devient une limitation et une entrave. Ce n'est pas pour dire qu'il faut la perdre, mais il faut qu'elle se subordonne à votre mouvement d'ascension. Il ne veut pas dire qu'il faut devenir déraisonnable. Il dit qu'il faut passer au-delà de la raison vers une vérité et une lumière plus haute. Ainsi, ça c'est d'une façon succincte le contenu de ce premier paragraphe. Et ce qui est intéressant dans la construction de ce chapitre, c'est que la réflexion qu'il a fait pour l'être mental, l'activité intellectuelle humaine, il l'a fait aussi pour l'activité vitale, le pouvoir d'action et de réalisation. Il prend l'activité mentale comme base de la vie humaine parce que c'est ce que c'est l'activité qui est propre exclusivement à l'homme. Et dans le processus de la vie, c'est-à-dire de l'existence humaine, de la réalisation humaine, la pensée vient d'abord, normalement. L'homme étant un être pensant, d'abord il a une idée, puis il revêt cette idée d'une force, d'une puissance vitale, d'une puissance d'action, et il la change, il la transforme en volonté. Et la volonté se concentre sur l'objet à réaliser. Et avec la force vitale et l'effort qui s'ajoute à la pensée, à la conception, cela devient le levier de l'action. Mais il se sert d'un mot qui n'est pas volonté. Il dit velléité. Et il oppose les velléités, c'est-à-dire toutes les volontés superficielles, souvent opposées et contradictoires, et sans base durable, c'est-à-dire basées sur ce qu'il appelait dans le paragraphe précédent un savoir, et non pas basé sur la connaissance. Ces velléités sont nécessairement fragmentaire, passagère et souvent en opposition les unes avec les autres. Et c'est cela qui donne à la vie individuelle et même collective son caractère d'incohérence, d'illogisme et de confusion. Généralement, on réserve le mot volonté pour exprimer ce qui vient de l'être profond ou de la réalité supérieure et qui est l'expression dans l'action de la connaissance véritable qu'il a opposée au savoir. Ainsi, lorsque c'est cette volonté qui exprime la connaissance vraie, qui se manifeste dans l'action, elle se manifeste par une intervention d'une puissance profonde et directe, qui ne nécessite plus l'effort. Et c'est pour ça qu'il dit ici que le vrai pouvoir de l'action, le vrai pouvoir de l'action ne peut exister que quand on a dépassé le stade des velléités, c'est-à-dire que le mobile de l'action n'est plus simplement le résultat d'une activité mentale, mais le résultat de la connaissance vraie. Et la connaissance vraie agissant dans l'être extérieur donne le vrai pouvoir. Ça paraît être une explication, l'explication réelle de cette se dire très familier et que l'on ne comprend pas dans son essence, mais qui exprime une vérité quand on dit vouloir ses pouvoirs. Mais il est de toute évidence qu'il ne s'agit pas là des velléités, c'est-à-dire de l'expression plus ou moins incohérente des désirs, mais de la volonté vraie, exprimant une connaissance vraie. Parce que cette volonté vraie contient en elle-même la puissance de la vérité qui donne le pouvoir qui ne peut pas être vaincu, un pouvoir invincible. Et alors, quand il y a l'expression de ces velléités, pour pouvoir les appliquer à la vie et les rendre efficaces, il faut que l'effort intervienne. C'est avec l'effort personnel qu'on progresse. Et c'est avec l'effort qu'on impose ses velléités à la vie pour qu'elle se plie à leurs exigences. Mais lorsque ce ne sont plus des velléités, mais la volonté véritable exprimant la connaissance vraie, alors l'effort n'est plus nécessaire parce que, comme je le disais auparavant, le pouvoir est tout puissant. Maintenant, nous pouvons continuer, mais j'aimerais mieux que vous me posiez une des questions sur ce que je viens de vous dire pour que vous arriviez à comprendre plus exactement ce que j'ai dit. Voilà. Ce n'est pas si vous avez écouté ce que j'ai dit et qu'il y ait quelque chose qui ne vous paraît pas assez clair ou assez complètement expliqué, il faut poser une question précise. Et pour poser une question précise, il faut d'abord non seulement avoir écouté, mais encore avoir réfléchi à ce qui a été dit. Alors, voyez. Qu'est-ce qui n'était pas suffisamment clair ou suffisamment expliqué? Tu peux résumer ce que j'ai dit? Parce qu'au fond, c'est ça que vous devriez faire. C'est vous faire un résumé de ce que j'ai dit pour voir si vous avez vraiment compris ce que j'ai dit. Alors,
mais quel est le premier pas qu'on doit faire pour avoir de la connaissance?
premier pas. Perdre l'illusion de l'absolue valeur des savoirs, c'est-à-dire du savoir humain et de l'activité mentale. D'abord, sortir de cette illusion que ça a vraiment une valeur concrète et absolue. Et vous remarquerez que c'est la chose peut-être la plus difficile. C'est le pas le plus difficile. Parce que quand vous étudiez des choses générales comme la science, les différentes branches de science, ou la philosophie, ou toutes les activités similaires, et quand vous les étudiez un peu sérieusement et à fond, vous arrivez assez facilement au sens de la relativité de cette connaissance. Mais quand vous redescendez à un degré, juste au degré suivant de l'activité mentale, et que vous regardez les différents problèmes de la vie, par exemple, ce qu'il faut faire dans un cas ou un autre, les conditions pour réaliser une chose, un métier que l'on veut apprendre, ou même les différentes nécessités de la vie, des conditions de vie, de la santé, généralement, un être raisonnable ou en voie d'être raisonnable, se forme un ensemble d'idées qui sont vraiment des savoirs, un ensemble d'idées sur telle chose produira tel effet, pour obtenir telle chose il faut faire telle autre. Et vous avez toute une construction en vous, mentale, faite d'observations, d'études, d'expériences. Et plus vous avancez en âge, plus ce nombre d'expériences et de résultats de l'étude et de l'observation augmente, et vous faites une sorte de construction mentale dans laquelle vous vivez, avec, à moins que vous ne soyez puissamment intelligent, avec une ouverture vers des mondes supérieurs, une conviction innée, spontanée, de la valeur absolue de vos observations, et que sans même que vous ayez besoin de réfléchir, ça agit automatiquement dans votre être. Et par une sorte d'habitude, telle chose amène forcément tel résultat. Alors pour vous, quand le phénomène s'est reproduit assez souvent, dû naturellement à l'habitude d'association des deux mouvements, cela crée en vous un sentiment de valeur absolue de vos idées, de vos savoirs concernant vous-même et votre vie. Et là, c'est infiniment plus difficile d'arriver à comprendre la relativité, l'incertitude qui va jusqu'à l'illusion de cette connaissance-là. Et vous ne vous en apercevez que si, avec une volonté de discipline et de progrès spirituel, vous regardez ces choses avec un sens critique profond et que vous vous apercevez de l'espèce d'esclavage dans lequel vous vous êtes mis et qui agit sans que vous ayez besoin d'intervenir automatiquement avec le support du subconscient et cette sorte d'automatisme des réflexes qui fait que les causes et les effets se suivent selon l'ordre habituel sans que vous en soyez le moins du monde conscient. Eh bien, si vous voulez atteindre à la connaissance, la première chose, le premier pas indispensable, c'est de ne plus croire à la validité de ces choses-là. Et si vous vous observez, vous vous rendrez compte que cette croyance à la validité de ces observations et de ces déductions est presque absolue. Hein. Par exemple, n'est-ce pas, ça se traduit par toutes sortes de choses qui raisonnablement vous paraissent évidentes et bien qui sont justement les limitations qui vous empêchent d'atteindre la connaissance par identité. Par exemple, que si un homme se jette dans l'eau sans savoir nager, il se noiera. Que si il y a un vent assez puissant, eh bien, il renverse les choses. Que quand il pleut, ça vous mouille. Etc., etc., n'est-ce pas? Il y en a à chaque seconde. C'est comme ça, et ça vous paraît tellement évident qu'enfin, quand on vous dit, ben non, c'est une connaissance relative, c'est comme ça, mais ça peut être autrement. Celui qui vous dit ça vous paraît a priori un demi-fou. Et vous dites, mais enfin, ces choses-là sont concrètes. Ce sont les choses que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, que nous pouvons sentir. Ce sont les preuves que nous donnent nos sens à chaque minute que les choses sont comme ça. Et si nous ne nous basons pas là-dessus, nous sommes sûrs de dévier et d'entrer dans le déraisonnable. Et alors, si vous vous rappelez ce qu'il a dit, vous comprendrez que la première condition qu'il a mise là pour avoir la connaissance, c'est de dépasser la raison. C'est pour ça qu'il dit « la raison fut une aide ». Oui, pendant toute la période d'enfance de l'humanité et pendant toute la période de développement de l'être individuel. Mais si vous voulez dépasser l'être humain, la condition humaine ordinaire, eh bien, il faut que vous dépassiez la raison. Et ces choses qui vous paraissent si évidentes qu'elles sont indiscutables, vous puissiez comprendre, sentir du dedans de vous-même qu'elles sont absolument relatives et que ce qui paraît complètement semblable, identique dans les expériences de tous, ces mêmes choses, si on les regarde du haut d'une conscience supérieure, deviennent absolument subjectives et relatives et ne sont que des formations individuelles adaptées aux besoins et à la conscience individuelle. Et qu'au lieu d'avoir une réalité absolue, elles n'ont qu'une réalité tout à fait relative qui disparaît totalement dès qu'on s'élève à une hauteur supérieure. Alors maintenant, si vous regardez votre condition pensée sous ce jour-là, vous verrez que c'est pas si facile de faire même ce premier pas. On peut donner des exemples, mais ce sont des exemples superficiels et qui eux-mêmes sont très fragmentaires et n'ont pas, n'ont une valeur tout à fait relative, comme ceci par exemple, que je vous ai dit maintes fois, au point de vue de mettre la connaissance médicale dans le monde. Eh bien, si vous avez suffisamment étudié ou suffisamment vécu, c'est-à-dire un nombre d'années suffisant, vous vous apercevrez qu'avec la même autorité, la même certitude, la même conviction, à une époque, certaines choses sont considérées non seulement comme mauvaises, mais basées sur une connaissance absolue, une observation indiscutable, ces choses ont un certain effet. Très souvent, je donne un exemple parce que c'est un exemple que qui m'a été donné d'observer. eh bien, surtout concernant la valeur des aliments et leurs effets sur le corps, eh bien, il y a certaines choses comme certains fruits ou certains légumes. À un moment donné de l'histoire médicale, il n'y a pas si longtemps, vous prenez, il n'y a que 50 ans ou 60 ans avant, quand vous aviez une certaine maladie, il y avait une liste de choses que le docteur vous donnait en vous recommandant avec une gravité absolue qu'il ne fallait pas y toucher parce que vous seriez encore plus malade. Eh bien, je pourrais vous donner la liste, mais ce n'est pas intéressant. Mais ces mêmes choses, 50 ans ou 60 ans après, peut-être pas le même docteur, mais un autre docteur, vous dira avec le même sérieux, la même certitude, la même autorité indiscutable, que ce sont ces choses-là que vous devez manger si vous voulez guérir. Alors, si vous avez observé suffisamment et que vous avez l'esprit un petit peu critique, vous pouvez vous dire, oh, ça doit dépendre des gens. Ou peut-être que ça dépend des époques. Et je dirais comme un docteur ami que je connaissais en France il y a quelque chose comme 40 ou 50 ans, qui me disait, ou qui disait à tous ses clients, prenez un remède tandis qu'il est à la mode, parce qu'à ce moment-là, il vous guérira. Eh bien, c'est cet état un petit peu subtil où on comprend cette extraordinaire relativité des choses. Il y a un état où ça devient tellement aigu que affirmer une chose, dire ça c'est comme ça, ou ça a ce résultat-là, ça vous paraît spontanément une ânerie. Mais avant d'en arriver là, on peut réfléchir et se dire après tout, nous croirons à telle chose tant qu'elle est à la mode. C'est tout.
Cette question se pose parce que souvent, ou parfois pendant notre étude dans l'école, on a parfois un grand dégoût en se disant à quoi ça sert. Dans ce cas, dans quelle attitude on doit faire ces études?
J'ai toujours dit que les études avaient comme résultat pour le cerveau le même résultat que la gymnastique a pour les muscles. Par exemple, une gymnastique mentale est tout à fait nécessaire pour assouplir, fortifier, enrichir l'activité mentale et lui donner une subtilité de compréhension qu'il n'aura pas si vous ne la faites pas. C'est en dernier, et enfin il y a longtemps déjà, je me suis aperçu par exemple que si j'ai le malheur de vous lire quelque chose avec des termes philosophiques ou de vous parler à un point de vue un peu philosophique, vous ne pouvez pas suivre. Et ça simplement parce que vous n'avez pas fait de gymnastique philosophique. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la capacité de comprendre, c'est parce que vous n'avez pas fait la gymnastique appropriée. Je pourrais vous le dire d'une autre manière, vous n'avez pas appris la langue. Mais ce sont les mêmes mots qu'on emploie, seulement avec des relations entre les mots un peu différentes. Avec des tournures de phrases différentes, avec une attitude mentale différente vis-à-vis des choses. Eh bien, cette différence d'attitude, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez fait la gymnastique correspondante. Et l'exemple pour vous est très facile à comprendre, parce que vous savez tous très bien que vous ne pourrez jamais faire tous les exercices d'athlétisme si vous ne vous êtes pas entraîné. Même si vous avez des capacités spéciales, si vous avez des dons, si vous ne pratiquez pas et si vous ne vous entraînez pas, ben vous ne pouvez pas le faire. N'est-ce pas, tous vos exercices d'agilité que vous faites, si on vous demande le premier jour de faire ça, eh bien vous ne pourrez pas. C'est tout à fait impossible et vous le savez très bien. Et vous diriez à quelqu'un qui vous dit « Oh, maintenant faites ça ». Un saut, n'est-ce pas, d'un certain genre, ou ce que l'on a employé, appelé dans le temps le saut périlleux. Eh bien, si on vous disait spontanément « faites-le », vous direz « cette personne est vraiment déraisonnable, c'est impossible ». Eh bien, c'est la même chose. Si je prends certains livres, et que je vous les lis, eh bien, vous ne pouvez pas suivre parce que la gymnastique mentale philosophique est tout à fait négligée chez vous. C'est exactement la même chose si on demande à quelqu'un qui n'a pas fait de mathématiques de suivre un raisonnement mathématique, eh bien, il ne pourra pas. Et alors, ça veut dire que si vous voulez exprimer pleinement, totalement, la réalité profonde de votre être, vous l'exprimerez d'une façon beaucoup plus riche, beaucoup plus intégrale, beaucoup plus variée, beaucoup plus productive, si toutes les parties de votre être sont pleinement développées comme ça par des gymnastiques appropriées. Je crois que je vous ai expliqué ça déjà une fois. S'il s'agissait de faire ce que l'on considérait jusqu'à ce jour comme la vraie vie spirituelle, c'est-à-dire d'abandonner toutes les activités physiques intégrales pour s'unir à la réalité divine suprême. Et rester dans cette union, c'est-à-dire laisser la vie et toute l'expression extérieure et s'en aller dans un nirvana, dans une identité qui ne s'exprimera plus dans le monde, mais qui vous sort du monde totalement. Alors il est évident que toutes ces gymnastiques, qu'elles soient physiques, vitales, sensorielles ou mentales, sont absolument inutiles et que ces gens-là considéraient que c'était tout simplement une perte de temps et une futilité. Mais pour nous, qui voulons réaliser presque l'opposé, c'est-à-dire qui voulons, après nous être identifiés avec la réalité suprême, qui voulons la faire redescendre dans la vie et transformer le monde, si nous offrons à cette réalité des instruments raffinés, riches, développé, pleinement conscient, le travail de transformation sera plus efficace. Et c'est pour ça qu'au lieu de vous dire, quand vous êtes haut comme une botte, de faire comme ces petits enfants-là, de s'asseoir et d'entrer, ou de faire semblant d'entrer en méditation, au lieu de vous dire non, il faut que vous soyez dans une contemplation constante et que toutes les choses du monde vous soient totalement indifférentes et que vous n'ayez qu'une pensée, c'est de vous préparer à recevoir la grâce divine. Au lieu de vous dire ça, eh bien, on vous dit non, tâchez de devenir des êtres développés et conscients, qui sachent les choses et qui aient des corps en bonne santé, forts, agiles, capables de faire des choses exceptionnelles. Une volonté adéquate et une mentalité riche, souple et agile, eh bien, ce seront des conditions utiles pour la réalisation future. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui ont l'habitude de juger les choses d'après les apparences et sans savoir de quoi ils parlent, disent que à la chambre, on n'a pas une vie spirituelle, on a une vie tout à fait matérielle. C'est comme ça. Mais ça, n'est-ce pas, c'est tant pis pour eux, c'est pas tant pis pour nous. Voilà. Plus de questions? Personne ne dit mot? Oh, si je demande ça, il va tout d'un coup sortir quelque chose. Non? Eh bien.